Après ces incursions au Yémen et au Pakistan, je vous propose maintenant de vous attarder sur une crise nationale qui, là aussi, est encore loin d'être résolue. Cette crise, c'est celle qui ébranle le Sri Lanka, un pays insulaire situé au sud de l'Inde, dans l'océan Indien, qui fut une colonie portugaise, hollandaise et finalement anglaise jusqu'à son indépendance en 1948, je ne vous apprends sans doute rien. Mais alors, que se passe-t-il actuellement au Sri Lanka ? En fait, le pays a plongé dans une crise politique le 26 octobre dernier, lorsque son président, Maithripala Sirisena, en fonction depuis 2015 et chef de file du Sri Lanka Freedom Party, un parti progressiste et démocrate de centre-gauche, a annoncé deux décisions inopinées. D'abord, la suspension du Parlement, et ensuite, le limogeage du Premier ministre Ranil Wickremesinghe et son remplacement par Mahinda Rajapakse, qui n'est autre que l'ancien président autoritaire du pays. Ces décisions, que le président justifie par des accusations de tentatives d'assassinat et d'une politique laxiste à l'égard de la corruption envers l'actuel Premier ministre, sont pour beaucoup inconstitutionnelles. Un des autres problèmes, c'est que Rajapakse est connu pour avoir violé les droits de l'homme et réprimé violemment la minorité tamoule du nord du pays lors de la guerre civile sri-lankaise, un élément essentiel pour comprendre l'histoire du pays et sur laquelle il pourrait être l'occasion de revenir.
Eh bien alors justement, cette guerre civile sri-lankaise, qu'en est-il ?
Alors c'est vrai que ça mérite quelques explications. Cette guerre civile, elle a opposé, entre 1983 et 2009, deux camps antagonistes. D'un côté, le gouvernement du Sri Lanka, dominé par la majorité sigalaise, le principal groupe ethnique du pays, et de l'autre, les Tigres de libération de l'Ilam Tamoul, ou Tigre Tamoul, une organisation indépendantiste qui prône la création d'un État tamoul indépendant dans le nord du pays. Mais alors, quelles sont les raisons du conflit ? Elles sont nombreuses et remontent parfois à plusieurs siècles. Déjà, Singhalais et Tamoul affirment chacun avoir été les premiers occupants du pays, et ensuite, des guerres ont opposé ces deux parties de la population dès le Moyen-Âge. Enfin, et c'est pour beaucoup la principale raison du conflit, les Tamouls ont bénéficié d'un traitement de faveur de la part des colons anglais.
Un traitement de faveur ?
Eh bien oui, c'est ça. Autrement dit, l'arrivée au Sri Lanka de Tamouls venus du continent britannique, la surreprésentation des Tamouls dans le service public, alors qu'ils ne représentent pourtant qu'une minorité de la population, et des écoles créées principalement au nord du pays, c'est-à-dire dans la région principalement tamoule.
Cette guerre civile, du coup, a dû mener à des affrontements nombreux, j'imagine.
Alors, en effet, elle a été particulièrement violente. Sans citer toutes les étapes, on peut distinguer plusieurs phases du conflit. Dans un premier temps, des émeutes, qui font suite à plusieurs mesures, comme le remplacement de l'anglais par le singhalais comme langue officielle du pays, ou l'arrestation du parti tamoul indien, sous couvert d'une recherche d'autosuffisance. Ensuite, et dans une deuxième phase, la création du LTTE engendre le début des violences. En 1976, en effet, est d'abord créé le Tamil United Liberation Front, qui revendique un État tamoul indépendant. Un an après, des affrontements meurtriers entre tamouls et forces de police entraînent la radicalisation de la communauté tamoule, dont une partie forme les LTTE, c'est-à-dire les Tigres de Libération de l'Elam Tamoul ou Tigre Tamoul. L'attaque d'une unité militaire du gouvernement par ces LTTE déclenche ensuite pogroms et violences à l'encontre des Tamouls, et c'est également le début des attentats suicides des LTTE. Dans un troisième temps, on est alors dans les années 80, l'Inde prend part au conflit. Elle signe un accord avec le Sri Lanka qui implique que le gouvernement fasse des concessions aux Tamouls, et l'Indian Peacekeeping Force, ou IPKF, s'engage à mettre fin au conflit. Le problème, c'est que cette IPKF est rapidement chassée, d'abord par les Tamouls, qu'elle a tenté de contraindre à rendre les armes, et ensuite par le gouvernement, hostile à une présence indienne trop importante sur son sol. Le dernier acte du conflit, des années 1990 à 2009, est marqué par une violence sans précédent et la défaite du LTTE. En 90, le gouvernement cherche à reprendre la ville de Jaffna aux mains des LTTE en bombardant la zone et en plaçant la péninsule sous embargo. Se succèdent massacres et exécutions, et en 92, le président sri-lankais est tué dans un attentat du LTTE. En 94, le gouvernement singhalais est défait, et le nouveau gouvernement dirigé par le Sri Lanka Freedom Party s'engage dans une stratégie de guerre pour la paix. Malgré cela, la violence continue et les attentats suicides se multiplient. Les années 2000, et j'ai bientôt fini, marquent la fin du conflit. Le gouvernement mène de puissantes offensives et acte une augmentation du budget de la défense, et ces années 2000 marquent également la défaite de la LTTE, dont le dirigeant est tué par l'armée gouvernementale menée par le président Rajapakse. Au total, le conflit aurait coûté la vie à plus de 80 000 personnes, dont une part importante de civils.
Et aujourd'hui donc, à quelle situation sommes-nous parvenus, Marie ?
Eh bien, même si la guerre civile a cessé, la situation reste problématique, puisqu'on soupçonne d'abord le gouvernement d'avoir violenté les anciens membres du LTTE et que l'armée du gouvernement occupe toujours les zones du nord du pays.
On comprend donc que Rajapaksa est peu apprécié d'une partie de la population, mais pour revenir à la crise actuelle, quelles issues sont envisagées ?
En fait, après la décision du président de nommer Rajapaksa Premier ministre, l'actuel Premier ministre, Ranil Wickremesinghe, que le président accuse de fraude et de corruption, a refusé de quitter son poste et a été soutenu dans sa contestation par des dizaines de milliers de Sri Lankais. Parallèlement à cette opposition, Rajapaksa, lui, commence déjà à nommer un nouveau gouvernement, tandis que ses partisans s'emparent des médias publics. Comment alors savoir si Wickremesinghe conservera sa place ou s'il sera remplacé par Rajapaksa au poste de Premier ministre ? Eh bien, c'est sûrement le Parlement qui tranchera. Rajapaksa et Wickremesinghe, soutenus par la communauté internationale, ont en effet demandé que soit accordé un vote de confiance au Parlement, vote au terme duquel chacun espère obtenir le soutien de la majorité pour pouvoir gouverner, et vote qui devrait avoir lieu le 16 novembre, date que Sirisena a annoncée comme celle de la fin de la suspension du Parlement.
En attendant ce vote, donc, quel est le climat au Sri Lanka aujourd'hui ?
Eh bien, un climat très tendu, puisque d'un côté, Rajapaksa multiplie les mesures pour obtenir le soutien de la population, il a notamment annoncé plusieurs baisses de prix, et de l'autre, les deux camps multiplient les défections et les marchandages. Certains députés tamouls, par exemple, affirment s'être vus proposer des sommes astronomiques, jusqu'à 2,8 millions de dollars, pour voter la confiance à l'ancien président Rajapaksa. Sirisena, lui, est accusé d'avoir limogé son ancien Premier ministre, avec lequel il s'était pourtant associé pour les élections, afin de se rapprocher de Rajapaksa et de garder la main pour les prochaines élections. Une crise à l'issue incertaine donc, qui interroge aussi sur le rôle et les limites de la démocratie dans un pays au rouage et à l'histoire complexe, affaire à suivre.
Merci beaucoup, Marie.
Journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.
Alors voilà, si on continue à prendre du retard, peut-être jusqu'à 21h, mais là la virgule est pas tout à fait adaptée. Promis, à partir du prochain numéro, on se retrouve le jeudi soir à 20h comme d'habitude. Mais pour l'instant, il est 19h19, passé de 30 secondes sur Transistor.